RCF.
Bonjour à tous et bienvenue, vraiment bienvenue dans cette émission Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Vous connaissez la formule, hein, des chroniqueurs, l'actualité culturelle et puis des coups de cœur. Car ici dans Effervescence, nous croyons au pouvoir des artistes pour réenchanter le monde ou en tout cas pour imaginer d'autres futurs possibles. Nous enregistrons alors que le mois de juin vit ses premières heures. Elles sont plutôt chaudes, hein, et comme chaque année à Paris à cette saison, c'est la petite balle jaune qui mène le match. Roland-Garros bat son plein et dans une semaine, au prix d'incroyables efforts, ils seront quelques-uns, quelques-unes, épuisés mais heureux à soulever la coupe. L'occasion pour Effervescence de parler du tennis. Si, si, vous verrez. Mais je vous rassure, hein, toujours en mode culture. Sinon, les chroniqueurs ont laissé leurs raquettes et leurs jupettes au vestiaire. Je n'ai que le temps d'un tie-break pour vous les présenter avant de monter au filet de cette émission. Je sais, c'est facile. Ingrid Blanchard, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Lyon, mais dans votre cœur palpite une île, c'est l'île de Porquerolles que vous racontez dans un podcast des plus recommandables. C'est fragile. Porquerolles, vous nous en parlez, car elle abrite la Fondation Carmignac au lieu de l'art contemporain. Et puis dans certaines îles, on pratique le naturisme. C'est l'objet d'un essai que vous avez lu pour nous, ça s'appelle « Vivre nu » de Margot Cassin. Stéphane Covio, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous aussi, vous êtes allé à Porquerolles, vous avez raté Ingrid, mais vous avez découvert un lieu hors du commun et surtout la dernière exposition de la Fondation Carmignac, une exposition au titre poétique, l'île intérieure. Et puis de retour à Paris, vous êtes retourné au musée Bourdelle pour admirer la nouvelle organisation des collections. David Groison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes désormais en charge des BD et du roman graphique chez Bayard. Vous restez passionné par la jeunesse. Vous avez lu le premier livre d'une jeune militante écologiste, Camille Etienne. Ça s'appelle « Pour un soulèvement écologique ». Et puis vous nous raconterez une formidable histoire d'amour, « Oublie-moi ». Et ça, c'est du théâtre. Et puis j'ai oublié de le dire, hein, mais Stéphane Covio, vous venez de l'association « Venez et voyez » quand même, qui nous emmène dans les musées. Voilà, jeu, set et match, trois chroniqueurs pour une émission. Le match commence, il s'appelle « Effervescence ».
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Et permettez-moi, aujourd'hui, puisque dans cette émission nous allons parler de la fascination qu'évoquent certains sports sur les artistes, de parler de la place laissée à la culture à l'école et particulièrement au collège. Place souvent résiduelle, voire dérisoire, surtout si on la compare à celle attribuée au sport. Vous l'aurez compris, hein, je ne souhaite pas faire du sport bashing, comme on dit dans un franglais détestable, mais en finir avec un cliché éculé. Si on veut qu'ils écoutent en classe, il faut aller les fatiguer en EPS avant. Bon, le problème, vous me direz, ce n'est peut-être pas l'EPS, mais plutôt la conception toute française de laisser des gamins de 13 ans assis 55 minutes sur une chaise à écouter l'histoire de la Première Guerre mondiale, le théorème de Pythagore ou les aventures de Monsieur de Molière. Mais revenons au collège. Les arts plastiques sont certes à l'emploi du temps, mais le spectacle vivant, la danse, le cinéma, pour ne citer qu'eux, ne sont choses connues que dans quelques établissements privilégiés, souvent portés par des enseignants militants et parfois bien isolés. Et quand il faut faire un arbitrage budgétaire, devinez quoi ? On pleure à chaudes larmes, le sport dans toutes ses formes sait tirer la couverture à soi, avec cette idée qu'à cet âge, eh bien on a besoin d'exercice. Et ce n'est pas la perspective des JO qui va arranger la chose. Alors merci, vraiment merci à tous les enseignants, animateurs, intervenants en tout genre qui, contre vent et marée, font rentrer la culture, toute la culture dans nos collèges, à ceux qui osent penser qu'on peut avoir de l'ambition et que nos ados méritent le meilleur, même dans les quartiers populaires, où on les cantonne souvent à ce qu'ils connaissent déjà un peu, le rap et le street art. À 13 ans, on a besoin d'exercer son esprit critique, à 13 ans, on est romantique, à 13 ans, on s'interroge sur sa place dans le monde et ce qu'on fera plus tard. Tous les garçons et toutes les filles ne seront pas footballeurs ou handballeuses. Donc merci à tous ceux qui osent les faire lire, leur faire écouter de la poésie, les emmener dans des musées, voir des sculptures et de la peinture à l'huile. C'est sûr, hein. Ils suivent souvent en traînant les pieds, mais à nous de partager nos enthousiasmes. Il n'y a pas que le sport qui fait grandir et véhicule des valeurs. On grandit aussi en entrant dans le mystère des émotions. On renforce aussi son sentiment d'appartenance à une nation en s'appropriant des chefs-d'œuvre. On peut aussi travailler son estime de soi en apprenant à chanter ou en traçant un trait sur une toile. Je vous dis tout ça et j'ai David Groison qui me fait les gros yeux et qui a plein d'exemples formidables d'initiatives culturelles dans les établissements. Mais il faut vraiment que cette exception culturelle devienne chose commune et que la médiation culturelle soit une évidence dans tous les établissements scolaires pour que le sport, comme les arts, ait chacun une vraie place.
2h25 de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. Pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les observaient, les spectateurs privilégiés du cours central et les millions de téléspectateurs rivés à leur télévision. Superbe combat entre Yannick Noah, numéro 6 du tennis mondial, et Mats Wilander, numéro 5 et vainqueur l'année précédente. Un superbe combat entre deux superbes garçons dont on a pu admirer le jeu parfaitement complémentaire et les tempéraments parfaitement opposés. 2h25 et une victoire en 3 manches pour Yannick Noah, 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break. Les grands moments de la rencontre, Lionel Chamoulot.
Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser Wilander avec son service. Angoisse dans le clan Noah, deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve.
Voilà, 5 juin 1985, je m'en souviens, hein. Yannick Noah devenait le premier Français à remporter le tournoi de tennis de Roland-Garros. Et puis, juste avant, hein, vous l'avez reconnu, ce n'était pas encore la reine Christine, mais déjà, quel talent. Et il y a quelques jours, Yannick Noah est revenu sur le cours central du Temple parisien du tennis pour un concert anniversaire. Lui, le tennisman devenu baladin, un concert où l'a rejoint son ancien adversaire et désormais ami, Mats Wilander, un concert de vétérans du tennis. Roland-Garros, temple du tennis, mais aussi de la mondanité. Hein. Avec cette joie des commentateurs télé à signaler quelle personnalité se trouve dans les gratins. Roland-Garros, c'est un lieu où certains et certaines viennent pour voir, mais surtout pour être vus. Alors, je vous ai parlé rivalité entre sport et culture tout à l'heure, je m'en excuse, mais en fait, les ponts entre les sports et les arts ne sont pas si rares. Le sport inspire les artistes, mais surtout, le monde du sport fait appel aux artistes. Alors, Stéphane Covio, je vous ai demandé de jeter un coup d'œil sur les affiches de Roland-Garros, et les plus grands noms ont prêté leur talent à la célèbre compétition.
Mais oui, et je ne m'en étais jamais rendu compte. Gilles Ayot, ça vous dit quelque chose ? Mmh. C'est un des très bons peintres français du XXe siècle. En 84, il a fait une magnifique affiche. Je trouve que c'est une des plus belles affiches de Roland-Garros. Mais il y a des célébrités encore plus importantes. Miro, en 91, était encore vivant. Donc, il a fait une affiche. Alechinski a fait une affiche. Vous avez Gérard Titus Carmel aussi. Plus récemment, Fabienne Verdier.
Ça, c'est impressionnant, Fabienne Verdier. C'est ce dermite de la peinture qui va faire Roland-Garros. Moi, ça me fascine, ça.
Mais oui. Alors, finalement, quand on réfléchit, il y a un lien entre l'art de Fabienne Verdier et le tennis. Parce que Fabienne Verdier, c'est de la gestuelle, en fait. C'est un geste éduqué par la tradition chinoise.
Sur la calligraphie, chinoise. Voilà.
Exactement. Et le tennis, c'est de la gestuelle. Vous voyez, il y a un coup de raquette, un coup de pinceau, mais elle a fait une espèce de rebond de balle avec un coup de pinceau, ou peut-être deux, je me demande en voyant l'œuvre s'il s'agit de un ou de deux, mais c'est très vivant, c'est très expressif, et ça fonctionne parfaitement. Mais j'aimerais vous parler de l'affiche actuelle.
Oui, j'ai bien compris. Alors,
elle est formidable, vous l'avez vue déjà ?
Oui, j'ai regardé, il paraît que c'est la première au crayon de couleur.
Elle est au crayon de couleur, elle est très figurative, elle est très poétique. C'est un jeune artiste, enfin jeune, il a 32 ans, qui vient de Dieppe, qui a fait l'école des Beaux-Arts à Paris. Et on voit une jeune femme de dos sur un court de tennis. Elle a une raquette dans la main droite qu'elle laisse pendre derrière elle. On ne voit pas sa main gauche, on l'imagine tenant une balle et s'apprêtant à engager un jeu. Et en fait, c'est pas possible. Puisque ce qui tient lieu de filet devant elle n'est pas un filet, c'est une cloison basse avec écrit Roland-Garros dessus. Et au-delà de cette cloison, ce n'est pas une deuxième moitié de stade, c'est le grand stade actuel de Roland-Garros, je pense, ça s'appelle Chartier, je crois, c'est une grande construction très récente, qui illumine dans la nuit avec des étoiles dans le ciel qui sont comme des balles de tennis. En fait, c'est une image extrêmement poétique.
Un peu naïf.
C'est un peu naïf. Enfin, on comprend que la jeune femme qui est là au premier plan n'est pas une compétitrice. Elle est vêtue comme plutôt une joueuse amateur. Et en fait, ce qu'elle voit, c'est le rêve Roland-Garros. C'est tout ce que ça... C'est en fait Roland-Garros vu par les amateurs de tennis, le rêve d'y être. Le rêve peut-être un jour de s'y trouver comme compétitrice peut-être, et avec l'effort que ça va demander. Et c'est vraiment une très belle œuvre pleine de poésie.
Voilà, vous irez regarder l'affiche de Roland-Garros, on la mettra sur la page de l'émission. Alors David Groison, vous, pour l'occasion, vous avez relu une célèbre saga de bande dessinée. C'est celle de Max Winsor. Max Winsor, c'est un champion de tennis ?
C'est un champion de tennis et c'est vraiment la BD de la gagne. L'auteur, c'est Jérémy Moreau. Jérémy Moreau, je peux juste en dire un mot, c'est un des petits génies de la BD. Ouais. À 16 ans à Angoulême, il avait gagné le prix de la BD scolaire. Il a multiplié les prix depuis. Et puis, effectivement, il a fait récemment les Pizzly.
Ah, ça, c'est ma BD fétiche de ces dernières années.
Et que vous pouvez repérer facilement en librairie avec sa couverture fluo. Oh,
Rose on peut fluo. Pas on il peut travaille pas la beaucoup louper. Avec fluo.
Il y a peut-être un peu de Jérémy dans Max, parce que Max, c'est un champion de tennis. Encore plus que Nadal, il n'a jamais perdu un match de sa vie. Il est adulé par la foule. Les enfants veulent sa coiffure en forme d'étoile. La BD commence comme ça, d'ailleurs, c'est assez marrant. Il atomise ses adversaires et du coup, Jérémy Moreau le dessine. Alors, sur la couverture, on le voit en géant complètement démesuré, effectivement, qui écrase ses adversaires. Il évolue dans une case avec un scaphandre d'astronaute sur la tête, en les coupé du monde et presque des hommes. Et c'est ça le sujet, c'est la réussite coûte que coûte. Le prix à payer, c'est un adolescent formaté par un père coach, et en tennis, on en a vu, mais ouais. Dans plein de sports. Qui est obsessionnel, qui est tyrannique.
D'ailleurs, le premier tome, je l'ai sous les yeux, s'appelle La Tyrannie.
Ça s'appelle comme ça, exactement, c'est en deux tomes. Et lui, il enchaîne les victoires sans satisfaction, c'est-à-dire qu'il est en combat contre lui-même, en étant dans une quête de perfection, en disant, voilà, j'ai gagné, j'ai écrasé, mais j'ai pas le bon jet, j'ai pas, etc. Et au fond, on voit que gagner, humilier, bah voilà, la frontière, elle est parfois ténue. Et peut-être que le plus important, c'est aussi de perdre. Et que ça permet de ressentir des émotions. On entendait Yannick Noah tout à l'heure.
J'ai l'impression qu'on est bien loin de la poésie qu'évoquait Stéphane Covio.
Alors, si,
et du rêve, si, encore.
Ah non, il n'y a pas de rêve.
Il n'y a pas de rêve.
Mais il y a une poésie parce que ça dit justement quelle est cette part. Jouer au tennis, il y a jouer, voilà. Et jouer, c'est aussi cette part de joie, cette part d'enfance. Et comment ce personnage va finalement perdre. Et d'un coup, peut-être essayer de repartir à la recherche de lui-même et pas du rêve de son coach, pas du rêve de son père, mais de qui il a envie d'être vraiment. Et peut-être, voilà.
Ça dit quelque chose du tennis en particulier ou c'est plus du sport en général?
Si, c'est le tennis en particulier dans cette idée de combat singulier, du combat d'homme à homme, avec on décrivait tout à l'heure le stade de Roland-Garros, avec voilà, la foule qui porte. Comme le match qu'on a pu voir au début de Roland Garros, où voilà comment d'un coup un champion peut être porté par la foule, par le fait que il y a cette énergie, cette dimension populaire.
Ça s'appelle Max Wilson, c'est en deux tomes et c'est publié chez Delcourt et c'est donc signé de Jérémy Moreau. Vous en profitez pour aller voir les Pizzlis, c'est aussi magnifique. Ingrid, j'ai commencé cette émission en évoquant la victoire de Yannick Noah face à Matt Wilander. Vous, c'est d'un autre match dont vous voulez nous parler. C'est la finale de Wimbledon un 5 juillet 1980 que retrace un film de Janusz Metz. Ça s'appelle Borg McEnroe. On écoute la bande-annonce.
Le phénomène auquel on assiste est unique. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rockstars. Et la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je ? Le gentleman ? Ou le rebelle ?
Mesdames, messieurs, John McEnroe. Vous et Borg, vous êtes humainement, diamétralement opposés, n'est-ce pas ?
Vous revenez sans arrêt à Borg, il est en coulisses, c'est une surprise. Est-ce qu'il va bondir de sa cage ?
Il est bourré de superstitions. Il a des rituels. Je te le dis, mec, pour eux, c'est une putain de religion.
Je pense que je suis, comme tout le monde, je suis pas une machine.
Putain ! On dit que c'est un iceberg, mais en réalité, c'est un volcan. Il garde tout en lui. Jusqu'à ce que ça pète.
Vous avez votre héros, votre gentleman Borg, et il vous faut un vilain petit canard.
Ces putains de pigeons foutent en l'air ma concentration, vous comprenez ?
C'est comme si je m'attendais. Comme s'ils espéraient ma chute.
Tu vas le battre, ce joueur.
Tout le monde parle comme si c'était facile. Allez, vas-y, Bjorn. Tu vas en faire qu'une bouchée. T'es le meilleur, tu vas le battre.
C'est là-dedans que ça se passe. Là-dedans.
Tu seras numéro 1, mais on ne se rappellera jamais de toi comme étant un grand joueur. Tu sais pourquoi ? Parce que personne ne t'aime.
Serez-vous capable de vous contenir ?
Ça suffit, ferme ta gueule.
Iceborg contre l'irascible Big Mac.
Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce putain de court. Et ça, vous pouvez pas le comprendre, le cul sur vos chaises.
J'ai bossé toutes ces années avec l'idée qu'un jour j'accéderai à ce moment précis.
Borg McEnroe. Ingrid, vous avez revu le film pour nous. À l'époque, le film avait fait un flop, non ?
J'ai pas l'impression, il avait reçu plutôt des bonnes critiques, mais en écoutant la bande-annonce, j'avoue Stéphanie que moi je l'ai revu en VO, alors ça fait un peu snob, mais je trouve que en français ça passe un peu moins bien. Voilà, je le dis pour ceux qui préfèrent voir les films en VO. Voilà,
ça vaut le coup.
J'ai été complètement séduite par la bande-annonce.
D'accord.
Non, en fait, j'ai choisi ce film parce que déjà le tennis c'est pas le sport le plus cinématographique possible, c'est un peu une prouesse de rendre réaliste un match de tennis entre deux acteurs, faut user de quelques artifices de cadrage, et je trouve que le réalisateur y arrive parfaitement bien. On rentre complètement dans cette finale de Wimbledon qui est vraiment l'acmé du film, c'est vraiment la fin du film, donc avant il y a vraiment toute une histoire, mais surtout ce film c'est un film qui contient tous les ingrédients d'une épopée sportive mythique. Alors vous l'avez dit Stéphanie, on a là deux personnalités importantes du tennis, Bjorn Borg qui est à ce moment de sa carrière sportive où il est complètement adulé par le public et il concourt pour la cinquième fois pour le titre à Wimbledon face à John McEnroe qui lui est en pleine ascension dans sa carrière professionnelle sportive. Et on a une plongée absolument hyper intéressante dans toute la complexité émotionnelle de ces deux joueurs que tout oppose, avec un John McEnroe qui est colérique, qui crache.
C'était le méchant, lui. Hein.
Oui, c'était vraiment le méchant. D'ailleurs, on l'entend dans la bande-annonce. Et un Bjorn Borg totalement impassible et coupé de ses émotions. On l'appelait d'ailleurs à l'époque l'Iceborg. Voilà, c'est dire à quel point il était connu pour sa froideur légendaire. Et le réalisateur donc utilise vraiment les flashbacks pour remonter dans l'enfance et l'adolescence de ces deux grands joueurs et pour montrer où est-ce qu'ils vont aller puiser leur force mentale. Et on découvre que Borg, en fait, était un adolescent, enfin un jeune homme issu d'une famille très modeste, un adolescent à problème qui était violent et avec beaucoup de hargne, et qu'il va construire son image autour de la pleine maîtrise de ses émotions, alors que McEnroe a grandi dans la haute bourgeoisie américaine avec une éducation très corsetée et qui va jouer les enfants terribles sur les cours. Donc ce qui est vraiment intéressant et pas caricatural, parce que c'est vraiment le récit de leur vie, c'est que ces deux sportifs se sont construits vraiment dans des parcours opposés. On voit, on le citait tout à l'heure, mais l'importance de l'entraîneur mentor de Borg qui va être capable de déceler le grand joueur en lui pendant son adolescence et qui va lui apprendre à se contrôler sur le court. Et puis je trouve que c'est un film qui montre très bien les sacrifices et les renoncements auxquels les grands sportifs doivent faire face, comment aussi se construisent vraiment les icônes et les différentes pressions qu'elles peuvent subir. Et voilà, moi je pense que c'est le genre de film et ce qu'on peut vivre aussi quand on est porté vraiment par ces grands sportifs qui nous font vivre des moments un peu dingues, qu'on soit sportif d'ailleurs ou pas, c'est qu'on est, on est plus vraiment face à des sportifs, on est un petit peu face à des rockstars que tout oppose et qui sont complètement capables de galvaniser les foules, voilà, avec ce geste parfait qui est quand même quelque chose d'assez... d'assez emblématique du tennis et de voilà cette grande solitude mentale et ce grand isolement de ces sportifs que peut-être les sports d'équipe c'est vraiment une singularité du tennis je trouve et on le ressent très très bien dans ce film.
Voilà, pour revivre cette finale incroyable du 5 juillet 1980, on l'a compris, on regarde ce film Bjorg McEnroe et on le regarde en VO. Pour terminer, impossible de ne pas écouter Yannick Noah, hein. On va éviter Saga Africa et son exotisme un peu daté. Je vous propose plutôt d'écouter un joli titre, extrait de son dernier album sorti à l'automne dernier. Ça s'appelle Un pas de côté.
À peine tu gagnes, que déjà tu perds. À peine t'arrives et déjà tu repars. En 24 heures, tu fais le tour de la terre. En un quart d'heure, tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. À
s'appelle, on s'aime et déjà on se quitte. Pas si facile de suivre le rythme. On court mais on court dans le vide. Le cerveau tourne comme une usine. Toi t'essayes de suivre la lumière, de jamais regarder en arrière, de penser danser plus vite que ton ombre. T'as rien vu mais t'as fait le tour du monde. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté.
Un pas de côté, Yannick Noah, l'une des personnalités préférées des Français.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
David Groison, à défaut de Roland Garros, vous avez été au théâtre voir une pièce multiprimée lors de la dernière cérémonie des Molières. Ça s'appelle « Oublie-moi » et c'est une formidable histoire d'amour. Et tout commence par une rencontre dans une boîte de nuit. Bon, alors on est en boîte de nuit.
On est en boîte de nuit.
Il y a une scène de drague un peu nulose, quoi, c'est ça?
Alors un peu nulose, bon, bah, ça c'est vous qui dites, mais non, si c'est vrai, c'est un peu nulose.
Mais en fait, c'est marrant
parce que c'est effectivement, on rentre dans cette boîte de nuit, c'est un carré, un décor très rose bonbon, très pop comme ça. Il y a ce garçon, cette fille qui danse, la façon qu'il a d'aborder elle. Et très, c'est vraiment le bourrin.
Voilà.
Et en même temps, ça surprend, etc. Donc, ça, faut pas trop,
raconter. Fonctionne.
Donc, on se dit, ça va être une comédie romantique, une de plus, et pourquoi pas d'ailleurs, hein, de se dire, c'est dans une petite scène du théâtre du Petit Saint-Martin, en disant, c'est, la rencontre, le quotidien, la passion, puis le quotidien qui s'installe, etc. Bon, et au début d'ailleurs c'est ça. Et ils sont très bons tous les deux. Arthur, c'est Thierry Lopez qui joue donc ce garçon qui enchaîne les enfantillages, qui est à la fois touchant et en même temps assez agaçant, je dois dire. Et elle, c'est Jeanne, Marie-Julie Bopp, qui est à la fois charmée, au service de cet homme, mais en même temps assez puissante et charismatique. Et donc, on les suit dans leur aventure d'une vie de couple. Et puis, il y a un petit moment où ça se dérègle, où il va devoir faire des courses, il doit aller acheter trois trucs, du lait, je sais pas quoi, au supermarché.
Il arrive, il oublie.
Il oublie et en fait, bon, bah, c'est arrivé à chacun d'entre nous d'oublier un prénom, d'oublier un... Voilà. Et puis, il y a plein de petits moments comme ça qui se dérèglent. Et la pièce n'est plus du coup une comédie romantique, mais quelque chose d'assez profond, d'assez puissant, de très émouvant sur, effectivement, une... Alors, on ne veut rien dire.
Oui, je ne voudrais pas qu'on dise tout, parce que je trouve qu'il y a des critiques qui disent trop de choses sur cette pièce.
Et voilà. Et moi je ne vais rien dire.
Voilà.
Voilà, je là. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'un... Voilà,
On
n'est pas du tout dans le vaudeville, on est dans la sincérité, la vérité d'un couple face à une forme d'adversité, de quelque chose qui d'un coup est une forme de, voilà, de dérèglement. C'est difficile de ne pas être ému devant une telle pièce. Et comme vous dites, il y a eu plusieurs Molières, il y a eu 4 Molières, ce qui est dingue. À la fois les deux interprètes masculins et interprètes féminins, parce qu'effectivement ils sont très bons. Et vraiment dans une justesse, une vérité, on a l'impression qu'ils sont eux-mêmes sur scène. Et puis la meilleure pièce et la meilleure mise en scène, parce que c'est aussi
eux qui font la mise en scène.
Qui ont fait la mise en scène, donc c'est aussi ce duo-là qui a une grande complicité. Ils adaptent une pièce anglaise qui a inspiré cette
In Other Words, je l'ai vu dans le dossier de presse,
tout à fait.
De Matthew Seger. Ouais. On écoute quelques extraits qui ont été un peu collés ensemble, c'est une bande-annonce de théâtre.
Je meurs d'envie de vous poser une question.
Allez.
Ben, ma question, c'est... comment ça va?
Si tu m'avais dragué, normalement, sans m'agresser à coups de verre de vin.
Je n'aurais eu aucun intérêt à tes yeux.
Tu n'aurais eu aucun intérêt à mes yeux.
Sérieusement? Jeanne pense qu'elle aurait dû s'en apercevoir. Elle est persuadée que ça aurait fait une différence, mais c'est absurde.
Je voudrais que t'ailles voir un médecin, s'il te plaît.
Je t'assure, c'est pas la peine. C'est hallucinant comme t'es sexy, là.
Arrête, putain.
Peut-être qu'accepter le problème d'une certaine façon revient à admettre qu'on va perdre.
Je peux m'en sortir.
Oui, mais tu vas t'en sortir.
Je sais que je peux.
On va s'en sortir tous les deux. Alors on se lance ?
Pas on se lance.
Alors, peut-être que ta façon d'affronter, c'est de faire des blagues à deux balles ou de dire des phrases dramatiques, genre « merci », mais c'est pas la mienne, d'accord ? Et je veux pas passer pour égoïste, mais tout ça, ça me concerne aussi.
Merci.
C'est comme s'il m'a abandonné, vous voyez ? Mais oui, ça va aller très bien, ça va aller.
Regarde-moi. Je suis là.
Ça s'appelle Oublie-moi avec Marie-Julie Baupe et Thierry Lopez et ça revient au théâtre des Mathurins à la fin du mois d'août et ça devrait faire une jolie tournée dans toute la France ensuite. Les auditeurs les plus fidèles savent, Ingrid Blanchard, que vous êtes une habituée de l'île de Porquerolles, que vous aimez tellement ce lieu que vous lui consacrez un podcast, ça s'appelle Fragile. L'île de Porquerolles abrite la fondation Carmignac, une fondation d'art contemporain. Ingrid, je ne vous donne pas la parole tout de suite pour raconter la dernière exposition en cours, mais je passe le micro à Stéphane Covio. Stéphane, par le plus grand des hasards, vous êtes allé visiter cette fondation. Je voudrais que vous nous racontiez l'arrivée sur l'île, que vous nous racontiez les lieux.
Les lieux, moi, pendant des années et des années, c'était juste une île au loin là-bas, alors que moi, j'étais sur la plage, sur la côte en face. Et enfin, cette année, la semaine dernière...
On est en Méditerranée.
On est en Méditerranée. L'île Porquerolles, avec l'île du Levant, sont les deux grandes îles qu'on voit au large quand on est au Lavandou, par exemple, ou à Cavalaire, enfin, dans cette région-là de la Méditerranée. Et je vous dis une grosse bêtise, c'est Porquerolles dont je vous parle là. Porquerolles, c'est un peu à droite, c'est-à-dire un peu à l'est, en direction de la presqu'île
de Gien. Ma géographie, là, me fait défaut, voilà. Je ne peux pas vous corriger.
Et là, j'ai traversé cette petite portion de Méditerranée. Alors, vous savez que ça se fait très facilement. Il y a des liaisons hier, Porquerolles, innombrables pendant la journée, aller-retour. Et puis, sur place, c'était formidable parce que c'est la première fois, moi aussi, que j'allais en Méditerranée hors saison. J'ai découvert le mois de mai et le mois de juin là-bas. C'est fantastique. Et on arrive là-bas, au port, on descend, et puis on a une petite distance à faire, un chemin qui monte, c'est tout à fait abordable. Et on arrive dans ce domaine, qui est une ancienne ferme. Il y a un domaine viticole qui a été racheté par Édouard Carmignac, qui est un financier important français, qui est aussi un collectionneur, et il a décidé d'en faire un espace où présenter les œuvres de sa collection, mais pas seulement, aussi des œuvres qui viennent d'autres collections, de musées nationaux et autres, dans le cadre d'expositions comme c'est le cas là. Et le bâtiment est, franchement, quand on entre dans l'espace d'exposition, c'est très beau parce que c'est très simple, tout est bien accroché, c'est lumineux, c'est pas trop lumineux, il y a des espaces qui donnent sur le paysage. Il y a d'autres espaces qui sont en sous-sol parce que comme c'était un espace protégé, quand ils ont eu à créer des espaces, ça a été sous l'actuel bâtiment. Il y a un parcours vraiment intéressant. On monte, on descend. Il n'y a pas trop de choses. C'est pas immense. Et alors, les œuvres sont très, très belles. D'ailleurs, on arrive, on est accueilli par une très belle sculpture de Miguel Barcello, une espèce de monstre qui fait référence d'ailleurs à l'histoire des lieux. L'Alicastre, c'est un monstre mythologique local. On est accueilli par cette chose étonnante avec des yeux qui sont des creux assez profonds, comme certaines sculptures qu'on voit sur des fontaines, par exemple. Et l'exposition qui est présentée actuellement s'appelle L'île intérieure.
Alors on va peut-être demander à Ingrid
qu'elle
nous parle de cette île intérieure.
D'autant qu'Ingrid participe.
Voilà, mais on en reparlera ça.
Alors déjà, je voudrais remercier Stéphane parce que quand on aime un endroit, on est toujours à la recherche de la sensation originelle, de la première impression. Donc entendre Stéphane raconter sa première découverte de Porquerolles, merci, rien que pour ça. Ensuite, sur en effet la thématique de l'île intérieure, en fait, la fondation, elle a ouvert il y a 5 ans maintenant et elle a l'habitude, depuis le début de son ouverture, de présenter des expositions qui sont toujours imprégnées du lieu. Alors il y a 2 ans, il y avait une exposition qui s'intitulait « La mer imaginaire ». Et l'année dernière, c'était « Le songe d'Ulysse », qui était une invitation à voyager et se perdre dans les murs et les jardins de la villa. Et cette année, c'est peut-être l'exposition qui rentre le plus fortement en résonance avec les lieux, avec ce titre, donc en effet « L'île intérieure ». Alors déjà parce que de nombreuses œuvres qui sont présentées dans cette exposition sont directement inspirées de Porquerolles, par des artistes qui ont soit séjourné il y a très longtemps, soit séjourné très récemment. cette année notamment. Et puis aussi parce que ce lieu et cette ville-là, avec ses puits de lumière et le fait qu'elle soit nichée au cœur d'une forêt en pleine mer, c'est aussi une invitation à se déplacer physiquement, loin de son quotidien et de ce qui nous est familier, justement pour aller un petit peu approcher son intériorité. Donc il y a toute une métaphore autour de ça. Et l'exposition, alors Stéphane ne peut pas le savoir, mais en général, on rentre par le sous-sol. En fait, il y a deux niveaux à la Fondation Carmignac. Il y a le sous-sol, qui est vraiment creusé dans la terre, et il y a le rez-de-chaussée. Et symboliquement, cette année, ils nous ont fait rentrer par le rez-de-chaussée pour justement avoir cette métaphore de l'île intérieure, donc cette idée de plonger vraiment dans un univers souterrain et dans son intériorité. Alors, on est accueillis par une toile de Roy Lichtenstein qui représente un visage de profil mi-réel, mi-aquatique qui a été utilisé pour l'affiche de l'exposition, qui symbolise d'ailleurs très bien, je trouve, la thématique de l'expo. Et puis, juste à côté, on a une grande sculpture de Rodin qui est sur fond de grandes baies vitrées qui ouvrent sur les jardins de la villa et la mer à l'horizon. Et là encore, il y a ce jeu un petit peu permanent entre les œuvres à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis ensuite, sur tout ce premier niveau, on a un ensemble d'œuvres. Ça va de photographies très jolies et très poétiques de Bernard Plossu à des œuvres plus anciennes. Je pense notamment à une toile très belle du pointilliste Henri Edmond Cross, donc qui sont vraiment des représentations de Porquerolles. Et quand on descend, en fait, en sous-sol, là, on va rentrer dans des espaces qui sont qui présente des œuvres beaucoup plus oniriques, qui invitent au rêve. Il y a, je ne sais pas Stéphane si ça t'a marqué, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de représentations de la nuit qui étaient montrées. Et puis, alors je ne sais pas si on peut-être parler d'une ou deux œuvres qui nous a marqué.
Moi, c'est ce que j'allais vous demander à chacun, si vous pouvez nous raconter une ou deux maximum.
D'ailleurs, celle dont j'avais envie de parler, c'est justement un paysage nocturne. C'est peut-être la même qui a marqué Ingrid. C'est cette œuvre qui est près de l'entrée d'un peintre écossais. C'est un tableau vertical très sombre et on voit, c'est un paysage de nuit, il y a des étoiles dans le ciel, il y a un paysage en bas avec un âne et des arbres, on distingue les choses lentement. C'est une œuvre qui est faite à partir d'un souvenir d'enfance et qui est très intéressante aussi parce qu'au bout d'un moment on se demande ce qu'on a sous les yeux. C'est la surface de la toile est étonnante, c'est très doux, on se demande si c'est du velours ou quelque chose, puis on s'approche et on se rend compte que la toile n'est pas peinte. En tout cas, pour la partie supérieure, elle est teintée. Et donc, on a la douceur de la toile elle-même avec les petits poils à la surface. Et les étoiles, c'est simplement des vides, c'est-à-dire que c'est des petites gouttes d'eau de Javel que le peintre a laissé tomber sur le sombre. Ça fait un très, très bel effet. C'est très poétique. Ça rejoint un peu l'affiche de tout à l'heure que j'évoquais à propos de Roland-Garros.
Ingrid, vous, votre pièce préférée dans l'exposition ?
Alors, j'aime beaucoup celle que mentionne Stéphane. Alors, je vais être beaucoup plus, sur une œuvre qui est beaucoup plus, impressionnante au sein de l'exposition, qu'aura sûrement marqué Stéphane aussi. C'est une œuvre de 3 mètres sur 6 d'une artiste nigérienne, Otobong Nganga, je ne sais pas si je prononce correctement. Et c'est une magnifique tapisserie tissée qui présente un monde sous-marin et qui est une sorte de métaphore de la surexploitation des fonds marins. Voilà, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je pense que c'est une œuvre qui touche assez facilement parce qu'elle est assez monumentale et qu'elle est très, très belle.
Ah, c'est une splendeur. Une splendeur de couleurs. Et aussi, la manière dont les fils sont entremêlés, il y a un travail, il y a une espèce de tronc d'arbre avec une espèce de voilette noire qui passe par-dessus, qui donne des effets d'écorce. C'est vraiment très, très beau.
Bon, on va aller voir ça. Ingrid, cette année encore, vous associez à un photographe, c'est Bernard Pesse, pour présenter une installation sonore dans les jardins de la Fondation. Vous nous racontez un peu le principe ?
Oui, alors c'est la troisième édition de Portrait sonore avec Bernard Pesse. Donc c'est une installation qui s'intitule Murmure, avec la particularité cette année de se trouver à la fois dans les jardins de la Fondation Carmignac et sur l'île de Porquerolles. Donc au détour des chemins, vous pourrez aussi croiser deux installations qu'on a réalisées avec Bernard. Et donc le principe, c'est d'être allé à la rencontre d'artistes porquerollais, porcrosiens et levantins. Donc là encore, on a ouvert le territoire, cette idée d'île intérieure. On a voulu vraiment aller chercher aussi sur les îles voisines des prises de parole, donc autour de l'insularité, de l'inspiration artistique et en quoi peut-être ces territoires insulaires peuvent inspirer les artistes qui s'y trouvent.
Et parmi ces artistes, vous avez rencontré Jean-Claude Silbermann. On va écouter un extrait de ce qu'il vous a confié, mais vous nous racontez qui il est ?
Alors en fait, il est actuellement exposé. Il a une grande exposition au musée de la Banque à Hyères et je recommande, je crois qu'elle se termine ces jours-ci. Voilà, je crois que c'est la fin, c'est autour du 5 juin. Donc je recommande les Hyérois et tous les visiteurs du coin à aller voir cette magnifique exposition. Donc Jean-Claude Silbermann, c'était un disciple d'Aragon. C'est le dernier surréaliste vivant aujourd'hui. C'est un grand peintre, poète et écrivain. Et j'ai eu la chance de le rencontrer donc l'année dernière sur son île d'adoption, puisqu'il y vit 6-7 mois de l'année, donc qui est l'île de Porquerolles, l'île sauvage voisine de l'île de Porquerolles. Et donc, il m'a partagé un magnifique témoignage sur est-ce que la nature peut être une source d'inspiration pour les artistes.
Je suis parfois saisi d'une sorte de grand embrasement devant la nature, devant la splendeur. À la fois, ça me met en colère, parce que la nature, c'est... Il faut la combattre. Pour nous autres artistes, c'est une ennemie. C'est même la beauté naturelle, c'est l'ennemi de la beauté artistique. Comment faire mieux que la nature ?
C'est-à-dire que c'est une rivale.
Absolument. Mais je suis par moments pris de cette expérience que tout le monde a faite, je suppose, d'être dans l'aide, d'être au monde, d'être, comment dire, comme une goutte d'eau qui tombe dans la mer. Mm-hmm. Et alors elle se perd comme goutte d'eau, mais elle devient la mer. Et donc cette expérience de l'immensité, oui, il m'est arrivé fréquemment de la voir ici, mais ça m'est aussi arrivé en Bretagne, et ça m'est même arrivé sur l'autoroute de Cergy-Pontoise, entre Argenteuil et Cergy, il y avait une tempête d'un seul coup, toutes les voitures roulaient à 15 à l'heure, et il y avait un soleil qui s'est mis là-dedans, et j'étais moi au volant de ma bagnole, et tout à coup j'ai vraiment... senti quelle merveille absolue, quel bonheur de vivre et que la mort n'existait pas.
Voilà, entre Cergy-Pontoise et Porquerolles, hein, vous ferez votre choix. C'était le témoignage de Jean-Claude Silbermann, à retrouver donc dans cette installation autour de l'exposition L'île intérieure. C'est à la Fondation Carmignac et c'est l'île de Porquerolles. On écoutait donc le dernier surréaliste, on peut en écouter un autre maintenant.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui et l'on paraisse sans songer à demain. Dans mon île, ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Les grands cocotiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, un parfum d'amour se faufile dès la fin du jour. Elle accourt me tendant ses bras dociles, douces et fragiles.
Dans mon île, Henri Salvador, un peu de douceur et un peu de langueur sur RCF dans l'effervescence.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
J'avais envie de faire un lien entre Henri Salvador et le sujet qui vient, entre la langueur des îles et le sujet qui vient. Je n'ai pas réussi, donc vous allez vous débrouiller, Ingrid Blanchard. votre livre, c'est Vivre nu, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, racontez-nous, vous nous proposez de parler naturisme à travers l'expérience de Margot Cassan, qui vient d'écrire ses souvenirs et à la fois son enquête autour du naturisme.
Oui, alors je ne sais pas si le naturisme est à la mode en ce moment ou si c'est moi qui ai le regard déformé par mes travaux sonores sur l'île du Levant, mais on peut noter un certain intérêt pour le sujet actuellement. Il y avait le roman de Sophie Fontanelle qui était sorti il y a 2 ans, Capitale de la douceur, et puis il y a une exposition en préparation au MUCEM à Marseille pour 2024 sur le naturisme. Et ce livre de Margot Cassan, qui est une jeune philosophe et qui signe ici un récit à la fois documentaire et tiré de son histoire personnelle sur le naturisme. Alors ça m'intéressait d'entendre un peu la voix d'une jeune femme qui a grandi à Paris, parler de ses parenthèses estivales au pied du Mont Ventoux dans un village naturiste où elle allait rejoindre son oncle et sa tante l'été. Raconter à la fois l'origine et l'histoire du mouvement naturiste, l'amalgame qui est souvent fait entre nudisme et naturisme, et puis nous dire aussi ce que le naturisme a à nous raconter sur notre rapport au corps et en quoi cette pratique peut même parfois changer notre rapport au monde. Alors déjà, elle explique vraiment comment est né le naturisme et on voit à travers l'histoire du naturisme que la nudité n'est qu'un aspect de cette pratique et qu'avant tout, le naturisme, c'était le retour à une vie simple et saine, proche de la nature, le recours notamment aux médecines alternatives, la pratique régulière d'une activité physique et que finalement, la nudité n'était qu'un aspect vraiment de cette pratique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle mêle à la fois la dimension historique pour bien comprendre d'où vient le naturisme, mais c'est un récit aussi de sensations, c'est-à-dire qu'elle raconte vraiment ses souvenirs d'enfance et d'adolescente dans ce village naturiste. Elle raconte et elle décrit très bien la caresse du vent sur la peau, le bastidon dans lequel elle logeait au cœur d'une forêt de sureaux, la communion totale avec la nature, la découverte des insectes, de la faune et de la flore. Donc, il y a des passages vraiment très beaux, plein de poésie. Et puis, en même temps, on est aussi face à des questions de société. Elle raconte en quoi la nudité, dans notre époque aujourd'hui, qui est à la fois pudibonde, dans le sens où on censure aujourd'hui certaines parties du corps sur les réseaux sociaux, on demande aux jeunes filles de se couvrir le ventre. Et en même temps, il y a une tendance constante à l'hypersexualisation des corps. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Elle dit le paradoxe qu'elle a de se sentir en sécurité nue au cœur de l'été et souvent très mal à l'aise, voire terrifiée sous le regard de certains hommes en pleine ville. Et puis, elle dit aussi des choses sur ce que le naturisme dit dans la pratique de la nudité, en cela que ça rétablit en quelque sorte l'égalité entre les genres, entre les classes sociales. Elle dit aussi les vertus thérapeutiques du naturisme et elle dit que ce village naturiste est un petit peu comme un lieu de sécurité pour les trop massifs et les émaciés, pour les estropiés, les amputés et même les incurables. Voilà, donc elle dit que ce sont des lieux finalement où il est possible de se réconcilier avec son corps, où la vulnérabilité a toute sa place. Qu'on soit adepte ou pas du naturisme, je trouve que c'est un texte qui nous explique vraiment en quoi cette pratique nous permet de renouer avec la nature dans un certain esprit de sobriété et en quoi c'est avant tout, je crois, un état d'esprit, une façon de s'ouvrir à la diversité des corps et à une certaine acceptation de soi. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau récit d'une très jeune femme qui montre un aspect de cette pratique qui est finalement très peu répandue parce que je me suis renseignée, il y a 2,5 millions de Français, voilà.
Ça fait pas beaucoup.
Qui pratique le naturisme en France aujourd'hui.
Vivre nu, c'est signé Margot Cassan pour réfléchir à notre relation au corps et c'est publié chez Grasset.
C'est ça,
absolument. Voilà. Alors on se rhabille, on remonte sur Paris et on va au musée Bourdelle. Stéphane Covio, le musée Bourdelle, c'est pas un musée très très connu. Il a été fermé, il réouvre avec une nouvelle organisation des collections.
C'est ça, alors ça, seuls les gens qui le connaissaient avant pourront s'en rendre compte. Mais c'est aussi l'occasion de le découvrir. C'est un musée qu'encore peu de gens connaissent vraiment, même parmi les Parisiens, beaucoup n'y ont jamais mis les pieds. C'est un assez grand musée, en plus. On est très près de Montparnasse, là, et on est dans la rue dans laquelle Antoine Bourdelle, s'est installé vers 1900 à peu près. Il avait là son appartement, son atelier et puis des terrains autour. Il y a vécu toute sa vie, il y est mort, il a été exposé, son corps a été exposé dans l'atelier, les derniers hommages lui ont été rendus là. Et puis, par la suite, sa femme, sa fille se sont occupés de la postérité du lieu, de l'œuvre du maître. Et des bâtiments ont été construits les uns après les autres. Le musée a ouvert en 1949. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits dans les années 60. Dans les années 90, c'est Christian de Porzamparc qui a ajouté la dernière aile du lieu dans laquelle aujourd'hui ont lieu les expositions temporaires. Au milieu de tout ça, il y a des jardins, il y a un cloître.
Ouais, c'est très
c'est vraiment formidable. Et alors, l'innovation de la rénovation toute récente, c'est que maintenant, il y a un restaurant,
ah bon,
figurez-vous. Alors, il y a bien d'autres choses intéressantes, mais c'est quand même très agréable. C'est un restaurant, je l'ai découvert ce matin, figurez-vous. Il est sur la terrasse, donc il y a une terrasse ombragée, une terrasse en plein soleil. C'est des espaces qui étaient autrefois les appartements de la fille de Bourdelle. Donc c'est vraiment un bel endroit, en plus de ce qu'on a déjà à voir. Alors maintenant,
qu'on voit ?
Bah, les parcours ont changé. C'est pas le même type d'œuvres qui sont exposées. On commence avec une des œuvres majeures qui ont fait connaître Bourdelle. C'est un monument aux morts pour le département du Tarn-et-Garonne, suite à, je ne sais plus très bien à quel épisode historique. C'est un peu comme la porte de l'enfer pour Rodin. Énorme chantier sur lequel il a créé beaucoup de motifs. Et après, ces différents motifs ont pris leur autonomie et sont devenus des œuvres à part entière, etc. Et il y a quand même un bâtiment très impressionnant, c'est la salle des plâtres. C'est une immense salle avec des plâtres de très grande taille et notamment, pour moi, le plâtre de l'œuvre qui fait partie des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de la sculpture et qui mettent Bourdelle au sommet, c'est Héraclès Archer. Tout le monde a déjà vu le motif d'Héraclès Archer sur les cahiers scolaires Héraclès. Le logo reprend cette statue-là.
Ça y est, tout le monde le voit, on connaît tous Bourdelle.
Ben voilà. Et alors, ça a donné lieu à une statue en bronze, il y a une des versions en bronze qui est dans le musée, mais là, on a le plâtre. Et le plâtre, c'est émouvant parce que
c'est fragile.
C'est fragile. Puis surtout, la main de l'artiste est présente. C'est quelque chose qui est modelé. Et on a ce personnage extrêmement musclé, évidemment, c'est Hercule, qui bande son arc. Il a un pied en arrière appuyé sur un rocher, un pied en avant appuyé sur un autre rocher. Et c'est comme si la tension est maximale. La flèche va partir, elle ne part pas encore. Il y a le regard qui accompagne la perspective de la flèche. C'est d'une puissance. Quand on voit cette œuvre, on se dit, mais c'est pas possible, c'est vivant. C'est-à-dire le moindre muscle est vivant, le moindre muscle est habité. Il y a une tension intérieure, tout s'organise parfaitement, il y a un lien entre les membres, il y a une élasticité. C'est un chef-d'œuvre.
Stéphane Covio, au musée Bourdelle, on peut voir des œuvres de Bourdelle et entre autres ce chef-d'œuvre, mais on peut voir aussi des œuvres d'artistes invités.
Oui, alors actuellement il y a une exposition qui est consacrée à Philippe Cogner, c'est un des très bons peintres français actuels. Il y a tout un travail alors, qui est assez original, qui ne ressemble pas à ce que, pour les gens qui connaissent Philippe Cogner, c'est assez différent de ce qu'il faisait d'habitude. Là, il a pris les catalogues des expositions de Bâle. À Bâle, il y a des expositions très importantes, depuis je ne sais pas combien d'années, et il s'est donné comme mission, en gros tous les jours, de faire en une demi-heure de temps la reproduction, comment dire, d'une des œuvres présentes dans le catalogue, à partir des feuilles du catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, il peint sur les feuilles du catalogue, sur les photos du catalogue. Et il met tout ça, il homogénéise tout ça dans un format identique. Et là, on a la succession de toutes ces œuvres qui sont présentes là. J'en dirai pas grand-chose. En revanche, je peux vous dire quelques éléments sur la commande qu'il a reçue à l'occasion de cette exposition. Il a fait des grands tableaux qui représentent des amaryllis et des pivoines. Je trouve ça somptueux de beauté. C'est un peintre qui travaille avec l'encaustique, c'est-à-dire avec la cire. Il y a une matière très importante de cire. Et puis, il passe un film plastique par-dessus et après un fer à repasser. Et en fait, ça crée une espèce de floutage des motifs et une espèce de lissage de la surface. Puis il retire le film plastique avec une certaine violence, donc ça retire parfois un peu de matière. Donc en fait, c'est une image brouillée, mais c'est somptueusement coloré. Les pivoines qui sont exposées là, c'est franchement, j'en mangerai.
Ouais, puisqu'on parle de Philippe Cogner, il y a une autre exposition en ce moment à Paris où on peut voir
à l'Orangerie
ses œuvres qui répondent aux nymphéas de Monet. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Philippe Cogner, deux lieux pour aller découvrir son œuvre et puis bien sûr pour redécouvrir le musée Bourdelle. Les plateformes vont-elles avoir raison du cinéma? Vous savez, ça fait des années qu'on se pose cette question. Elle se posait plus tellement là pendant le Festival de Cannes. Et dans le monde du cinéma, eh bien, il y en a qui n'ont plus peur de travailler avec les Netflix et autres Amazon Prime. Ainsi, Cédric Lapiche, le réalisateur du Péril jeune et de l'Auberge espagnole, a adopté le format de la série pour son dernier portrait d'une jeunesse européenne. Ça s'appelle Salade grecque, c'est à voir sur Amazon Prime. Son comédien principal crève l'écran, mais il est aussi chanteur. On écoute Alyosha Schneider, ça s'appelle Avant elle.
Rien à espérer de moi. Passe ton chemin, t'arrête pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Y'a rien à espérer de moi. Rien à sauver, t'embête pas. Y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne.
Avant elle s'appelle Alyosha Schneider.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Et on continue dans la jeunesse qui nous dérange, la jeunesse qui nous bouscule et nous pousse à aller en avant. Elle s'appelle Camille Etienne, c'est une jeune militante écologiste et vous avez lu son livre. C'est
24
son...
ans.
24 ans, 24 ans. Vous avez lu son livre, David Groison, ça s'appelle Pour un soulèvement écologique. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'elle nous dit cette jeune femme?
Ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous raconte, parce qu'en fait, elle raconte, elle tisse très bien à la fois son histoire personnelle et notre histoire, un récit collectif. Elle raconte son enfance à Pézennes-en-Croix, qui est au-dessus du parc de la Vanoise, où donc elle a grandi dans la montagne, et elle dit, bah, elle regardait les topos, ces cartes qu'on regarde pour faire de l'alpinisme, et elle voyait là-dessus que ça collait plus à la réalité, que d'un coup il y a la disparition des glaciers, que ça a été son premier choc sur l'urgence climatique qu'on allait vivre. Et puis ce passage des marches climat, on se souvient avec Greta Thunberg, etc., des grands mouvements collectifs de la jeunesse, a finalement des combats plus précis. Et ils sont intéressants, ces combats plus précis. C'est le combat pour les fonds marins, contre la pêche en grand fond, et c'est une victoire grâce aussi au Parlement européen. Elle est en Allemagne avec les militants, les activistes contre la réouverture de mines de charbon. Et elle a des phrases très fortes parce qu'elle parle de l'église d'Imerat. Elle dit, bah, c'est une œuvre d'art qui date de 1821, qui a été rasée en quelques minutes. Et pourtant, elle n'était pas non protégée par une vitre, elle. Et alors pourquoi ça nous choque, quelques gouttes de peinture sur une vitre d'un Van Gogh, et que cette église-là qui a été rasée pour des raisons industrielles, d'énergie, etc., ça, personne n'en parle. Ce coup de bulldozer, cette destruction entière d'un village, c'est rien. Donc ça parle aussi de voilà la campagne contre les villes, cette idée qu'on voudrait opposer aussi les générations quand on dit
la jeunesse écolo. Hein.
Et elle dit bah non, on va le faire tous ensemble. Et le sous-titre de ce livre, c'est dépasser notre impuissance collective. Et c'est effectivement comment justement en emportant des victoires, en étant ensemble, en faisant des choses, d'un coup on change à l'intérieur de nous. Une posture qui fait que le plus gros ennemi, en fait, c'est cette idée d'impuissance, que tout est joué, que de toute façon on va dans le mur, que de toute façon les 4 degrés c'est écrit, etc. Donc elle est pleine d'une énergie très communicative.
Elle n'a pas de co-anxiété en elle.
Elle a de l'éco-anxiété, mais elle raconte comment justement on peut dépasser cette éco-anxiété à partir du moment où on se met en mouvement. Et donc, du coup, c'est assez réjouissant. Et puis, du coup, elle nous emmène à la fois en Islande. Elle est allée en bateau en Islande, toucher du doigt la fonte des glaciers là-bas aussi. Et elle dit, moi, la montagnarde, effectivement, de prendre l'eau,
c'était pas évident.
De voilier, c'était pas évident. Et puis, tout le combat qu'elle mène, notamment la semaine dernière, là, dans les assemblées générales de Total. Donc, on voit comment, d'un coup, il y a collectif. Et au-delà du bruit médiatique, de dire on agit, on crie, etc., il y a aussi tout un travail de persuasion de gens qui sont banquiers, qui disent « Ah bah oui, alors je vais me rejoindre votre mouvement, je vais enlever les actions Total des portefeuilles des grandes fortunes. » Et comment on peut réussir à faire bouger les choses quand on arrive à convaincre.
Et puis c'est important de dire que cette jeunesse aussi est une jeunesse qui réfléchit, on le voit avec ce livre de Camille Etienne. « Pour un soulèvement écologique », c'est sous-titré.
Dépasser notre impuissance collective, et c'est au seuil.
Eh bien, merci beaucoup, David Groison, pour le dernier ouvrage de cette émission Effervescence. Et oui, c'est la fin. Hein. Merci, Stéphane Covio. Merci, Ingrid Blanchard. Merci à tous pour votre fidélité. On salue également Pierre Samanos à la réalisation de cette émission. Et comme chaque semaine, je ne vous laisse pas partir sans déposer au creux de votre oreille une citation à l'occasion des 80 ans, Le Chant des Partisans, écrite par Maurice Druon et Joseph Kessel est chantée par Germaine Sablon. Je vous donne la dernière phrase de ce chant. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Bon week-end à tous.